Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon assume clos au sommaire de cette édition du jeudi 22 décembre 2022. Une délégation ivoirienne est à Bamako pour discuter du sort des 46 militaires détenus au Mali. Dans l'est du Kenya, des militants présumés d'Al-Shabaab ont tué 2 policiers et 1 civil. En Israël, Benjamin Netanyahou annonce qu'il a formé son gouvernement. Moscou dénonce un refus d'écouter la Russie après la visite de Volodymyr Zelensky ici à Washington. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Echo, le canal de Suez en Égypte va accueillir des investissements des étrangers, les sports, l'état de santé du roi Pelé se dégrade encore. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Une délégation officielle ivoirienne est arrivée ce jeudi à Bamako pour mener des discussions sur les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le mois de juillet. La CEDEAO exige leur libération d'ici le 1er janvier au plus tard. Abdourahmane Dia.
Nos frères ivoiriens sont arrivés. La délégation est conduite par le ministre d'État chargé de la Défense, Tene Ibrahima Ouattara. Nous allons travailler dans une bonne ambiance, a déclaré un ministre malien qui n'a pas souhaité être cité nommément. Une source aéroportuaire a confirmé à l'AFP l'arrivée à Bamako de la délégation ivoirienne. Comme geste de bonne volonté du Mali, la délégation ivoirienne devrait rendre visite aux militaires détenus, a ajouté cette source à la présidence. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Ducey, dont le pays assure la médiation dans cette affaire, est aussi attendu jeudi à Bamako. Il va concilier les points de vue pour qu'on trouve une solution rapide au problème, a déclaré un diplomate en poste à Bamako. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération, une demande appuyée par la CEDEAO.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, après quelques jours d'accalmie, les combats ont repris ce jeudi entre les rebelles du M23 et APCLS, l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, une milice d'autodéfense communautaire dans la région troublée de Rutshuru. Ces affrontements sont signalés dans les localités de Ruanga et Kiyonga. Nous sommes en plein combat, a confirmé le colonel autoproclamé héritier Ndangendangé, porte-parole de APCLS. Nouvelle attaque d'Al-Shabaab au Kenya. Les insurgés somaliens ont tué 2 policiers et 1 civil dans l'est du pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Un véhicule de la police kenyane qui se rendait du camp de Haile Lapset à Garissa, ville située à 120 km de la frontière somalienne, a sauté sur un engin explosif mercredi. Les insurgés ont alors tiré des roquettes sur le véhicule et échangé des tirs avec les policiers à bord, faisant 3 morts. La police kenyane dit ne pas disposer d'informations sur le sort des policiers portés disparus. Les militants d'Al-Shabaab ont affirmé sur les ondes de leur radio avoir tué 2 policiers et blessé plusieurs autres dans cette attaque. Le groupe a tué 166 personnes à l'université de Garissa en 2015 et 67 autres en 2013 dans un centre commercial de Nairobi. Toutefois, la fréquence de ces attaques au Kenya a diminué. Al-Shabaab continue ses raids transfrontaliers dans l'espoir de forcer le Kenya à retirer ses troupes de la force de l'Union africaine en Somalie. Le groupe est sous pression depuis le mois d'août lorsque le président somalien Sheikh Mohamud est passé à l'offensive avec l'appui des États-Unis, de la force africaine et des milices alliées.
Des tests aux détecteurs de mensonges vont être rendus plus obligatoires pour certains employés travaillant dans les parcs nationaux en Afrique du Sud afin de lutter contre le braconnage endémique de la faune, a annoncé aujourd'hui l'organisation publique qui gère ces parcs. Les braconniers opérant parfois avec la complicité d'employés des parcs ont décimé ces dernières années la population de rhinocéros en voie de disparition dans le pays. En réponse, l'organisation sud-africaine des parcs nationaux, SANParks, a adopté une nouvelle politique de tests polygraphiques pour ses employés. Les tests se feront au départ sur une base volontaire, mais l'intention est à terme de rendre les tests polygraphiques obligatoires pour certaines catégories d'emplois, a déclaré SANParks dans un communiqué. L'Ouganda a annoncé aujourd'hui avoir reçu des cargaisons de 2 vaccins expérimentaux afin de tester leur efficacité contre une souche d'Ebola à l'origine de dizaines de décès. L'épidémie en Ouganda a été causée par la souche soudanaise du virus pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin, mais 3 vaccins expérimentaux, l'un développé par l'Université d'Oxford et le Jenner Institute en Grande-Bretagne, un autre par le Sabin Vaccine Institute ici aux États-Unis et un troisième par l'International AIDS Vaccine Initiative vont être testés en Ouganda dans les semaines à venir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après sa victoire aux législatives du 1er novembre, puis des semaines de négociations avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes de l'extrême droite, Benjamin Netanyahou a annoncé hier au président Isaac Herzog être parvenu à former un gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Le point avec Rosine Monezero.
Les ténors de l'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir seront respectivement en charge des colonies en Cisjordanie et de la sécurité nationale. Plus de 475 000 colons juifs vivent en Cisjordanie occupée. Bezalel Smotrich a déjà annoncé la couleur avec son projet de légaliser des colonies dites sauvages, c'est-à-dire non reconnues par Israël. L'arrivée d'Itamar Ben-Gvir à la tête de la police inquiète en Cisjordanie après une année déjà tendue. Selon les Nations Unies, une vague d'attaques a fait plus d'une vingtaine de morts en Israël et les raids israéliens et les heurts ont fait plus de 150 morts en Cisjordanie. Washington, premier allié d'Israël, va s'opposer sans équivoque à toute action qui met en danger la solution à deux États, notamment l'extension des colonies, a prévenu le secrétaire d'État Anthony Blinken.
Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui une absence de volonté d'écouter la Russie après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis. Le président ukrainien qui a reçu de nouvelles promesses d'aide. Ce qui prouve, selon Moscou, que Washington mène une guerre indirecte en Ukraine. Le point avec John Lydon.
Lors de son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky a été reçu un héros à Washington. Il s'est entretenu avec son homologue Joe Biden et a prononcé un discours sous un tonnerre d'applaudissements devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Il a engrangé la promesse d'une enveloppe de près de 45 milliards de dollars et de nouvelles livraisons d'armes avec, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérienne Patriot. Le même jour, le Kremlin a mis en garde contre de nouvelles livraisons d'armes qui n'auront pour effet que d'aggraver le conflit. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a regretté jeudi que ni le président américain ni le président ukrainien n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté d'écouter les préoccupations de la Russie. Il ajoute que cela montre que les États-Unis poursuivent leur ligne de guerre de facto et indirecte avec la Russie.
Une grande partie des États-Unis est confrontée aujourd'hui à une violente tempête hivernale, menaçant les déplacements de millions d'Américains à l'approche d'un Noël qui pourrait être l'un des plus froids jamais enregistrés dans de nombreuses villes du pays. Cette tempête de neige devrait amener du blizzard dans la région des Grands Lacs, de la pluie suivie d'un gel immédiat dans les régions intérieures de la côte Est et des bourrasques de vent susceptibles d'atteindre 100 km/h accompagnées d'un froid glacial jusqu'à la frontière mexicaine. La justice belge a ordonné aujourd'hui le maintien en détention provisoire de l'eurodéputée grecque Eva Kaili, inculpée ce mois-ci dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar qui lui a déjà coûté son poste de vice-présidente du Parlement européen. La chambre du Conseil de Bruxelles, devant laquelle l'élu socialiste a comparu 11 jours après le début de l'incarcération, a refusé la demande d'un placement sous bracelet électronique et a prolongé la détention préventive d'un mois, a annoncé le parquet fédéral dans un communiqué. Les avocats disposent de 24 heures pour faire appel de la décision, a précisé le parquet bruxellois. Le Conseil des ministres franco-allemands aura lieu le 22 janvier à Paris, a indiqué aujourd'hui l'Élysée, 3 mois après un report sur fond de tension entre Paris et Berlin, notamment à propos de la guerre en Ukraine et de la crise de l'énergie. La présidence française a souligné la date très symbolique du 22 janvier qui coïncide avec le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Une cérémonie solennelle se tiendra en marge du Conseil des ministres en présence du chancelier Scholz et de représentants de l'Assemblée nationale et du Bundestag, a indiqué l'Élysée. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi, pour la première fois depuis des décennies, une résolution sur la situation en Birmanie. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Lionel Gaïma.
Le canal de Suez en Égypte va accueillir les investissements étrangers, mais les étrangers n'auront aucun contrôle sur le canal, a déclaré jeudi le chef de l'autorité de canal de Suez. Oussama Rabi s'est adressé aux journalistes après des discussions au Parlement sur les amendements juridiques prévoyant la création d'un fonds pour aider à gérer les ressources du canal, ce qui a déclenché des spéculations d'une possible vente de participation dans le canal à des étrangers. L'Égypte tente de susciter des investissements étrangers et privés. Les propositions de restriction de la dette de la Zambie doivent encore être discutées avec les créanciers bilatéraux dans le cadre du processus du cadre commun multilatéral, a fait savoir le ministre zambien de Finances dans une déclaration écrite. La Zambie est devenue le premier pays africain à faire défaut de paiement en 2020. Elle se force de terminer la restructuration de sa dette qui a atteint 133% du PIB en 2020. La Chine reste le plus grand créancier bilatéral de la Zambie avec environ un tiers de la dette qui se levait à 17,27 milliards de dollars à la fin de 2021. Le Cameroun et le Brésil discutent des possibilités d'étendre leur coopération dans le domaine de l'agriculture. Le premier ministre camerounais Joseph Dion Gouté, que cite le quotidien d'État Cameroon Tribune, s'est exprimé à ce sujet mercredi après des entretiens à Yaoundé avec Patricia Maria Oliveira Lima, ambassadeur du Brésil au Cameroun. Le Brésil appuie le Cameroun dans la lutte contre la piraterie maritime et les deux pays ont en projet une connexion par fibre optique.
Place maintenant au sport avec Timothée Donagmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Brésil occupe toujours la tête du classement mondial FIFA malgré son échec à la Coupe du Monde du Qatar.
Tout à fait Jean-Roger. Les Brésiliens devancent d'une courte tête leurs rivaux de toujours, les Argentins deuxième. Ces derniers auraient pu prendre la tête du tableau s'ils avaient défait les Français en finale du mondial à l'issue du temps réglementaire ou des prolongations. La France classe troisième suivie de la Belgique, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Croatie, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne, dixième.
L'Afrique pointe à la 11e place avec le Maroc.
Les Lions marocains ont fait un grand bond de 11 marches pour se hisser à cette 11e place après leur sortie historique en demi-finale du mondial face aux Français. Les Tunisiens, autres mondialistes africains, viennent loin derrière en 30e position, suivis des mondialistes camerounais 33e, des Nigériens 35e et des Égyptiens 39e. Bon résultat de Team USA qui, à la faveur de son passage au Qatar, est passé de la 16e à la 13e place.
Une nouvelle préoccupante dans cette page des sports.
Il s'agit de l'état de santé du roi Pelé qui n'est pas rassurant. Aux dernières nouvelles, son cancer s'est propagé. L'hôpital de Sao Paulo qui le traite a fait savoir qu'il recevra des soins pour des dysfonctionnements au niveau des reins et du cœur. Âgé de 82 ans, Pelé se bat depuis septembre 2021 contre un cancer du côlon.
La sécurité occupe une place clé dans les préparatifs des Jeux olympiques de 2024 à Paris.
Et oui, Jean-Roger, un projet de loi olympique présenté ce jeudi au Conseil des ministres aborde des mesures comme l'utilisation de scanners corporels et d'un système d'intelligence artificielle pour détecter des mouvements de foule aux abords des stades et sur les voies publiques ainsi que dans les transports.
Un mot de la NBA pour terminer, c'est du basket.
Oui, eh bien, les Cavaliers 3e de la conférence Est ont battu les leaders de la conférence, les Milwaukee Bucks, 114-106. Les Celtics finalistes de la saison dernière se sont à nouveau inclinés, cette fois-ci face aux Indiana Pacers, 117-112. Les Brooklyn Nets ont écrasé les Golden State Warriors, champions sortants, 143-113. Les New York Knicks ont manqué de réussite sur leur parquet du célèbre Madison Square Garden face aux Toronto Raptors, vainqueurs 113-106. Pascal Siakam des Raptors a réalisé le meilleur match de sa carrière à ce point avec 52 points. Et à l'ouest, les LA Clippers, 5e, ont défait les Charlotte Hornets, 126-105. et les Sacramento Kings ont battu les Los Angeles Lakers 134-120.
La page des sports en ce 22 décembre 2022 a été signée Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé mercredi aux parlementaires américains et a rencontré le président Joe Biden lors de sa première sortie à l'étranger depuis le début de l'invasion russe. Il a plaidé pour que Washington maintienne son aide militaire et économique à l'Ukraine. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est avec Lionel Gaïma.
Le président Joe Biden a accueilli son homologue Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche lors d'une visite surprise destinée à envoyer un message au président russe Vladimir Poutine. Les États-Unis seront là pour l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Le président Joe Biden.
Le président russe Vladimir Poutine essaie d'utiliser l'hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d'inspirer le monde. Je le pense sincèrement. Pas seulement nous inspirer, mais inspirer le monde avec son courage et la façon dont il a choisi sa résilience et sa détermination pour l'avenir.
Zelensky a remercié Biden et lui a remis une médaille de la Croix du Mérite militaire appartenant à un soldat ukrainien, capitaine d'une batterie IMARS donnée par les États-Unis. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
Il est très courageux. Et il a dit, donnez-le à un président très courageux. Je veux vous donner ça, la Croix du Mérite militaire.
Pendant que M. Zelensky foule le sol américain, les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars pour l'Ukraine et des nouvelles livraisons d'armes avec, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérien Patriot qui va aider à protéger contre les missiles russes. Une décision que Moscou a qualifiée de provocatrice. Mercredi, M. Poutine a réitéré que la Russie n'avait rien à se reprocher dans cette guerre. Vladimir Poutine, président russe.
Au contraire, c'est le résultat de la politique d'autres pays, de pays tiers qui ont toujours œuvré dans ce sens vers la désintégration du monde russe.
Le Kremlin a dénoncé jeudi une absence de volonté d'écouter la Russie après la visite du président ukrainien. Preuve pour Moscou que Washington mène une guerre indirecte en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, dit constater avec regret que ni le président américain ni le président ukrainien n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie. M. Zelensky a été reçu en euros à Washington. Prononçant un discours sous les applaudissements devant une réunion conjointe du Congrès, il a lancé un appel aux parlementaires qui discutent une nouvelle aide d'urgence de 45 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui porterait le total de l'aide américaine en temps de guerre à plus de 100 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
Your money is not...
Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la justice mondiale et la démocratie que nous gérons de la manière la plus responsable.
Un récent sondage du Chicago Consul révèle que 65% des Américains soutiennent l'aide à l'Ukraine. Ils sont partagés entre un soutien pour le temps qu'il faudra et le souhait que Washington exhorte Kiev à accepter la paix le plus rapidement possible.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Il y a 3 ans, des scientifiques de Wuhan en Chine ont signalé pour la première fois des infections dues à un nouveau coronavirus. Depuis lors, le monde a mis au point et administré 13 milliards de vaccins contre le Covid-19. C'est une réussite sans précédent, mais elle a été ternie par un accès inégal. Le programme mondial visant à améliorer l'équité en matière de vaccins a annoncé qu'il allait se concentrer sur les pays les plus pauvres. Steve Baragona de VOA nous parle de la campagne mondiale de vaccination Covid, alors que la pandémie responsable de plus de 6,5 millions de décès entre dans sa 4e année. Le récit avec Arzuma Compaoré.
24 février 2021. Une livraison de vaccins Covid-19 arrive au Ghana dans un effort d'équité en matière de vaccins. Anne-Claire Dufay, représentante de l'UNICEF, était là pour les accueillir.
Nous sommes vraiment heureux car ils iront à un grand nombre de bénéficiaires au Ghana. Le Ghana est le premier pays à recevoir les vaccins COVAX.
Le programme COVAX, soutenu par les Nations Unies, avait pour but d'aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à accéder aux vaccins après que les pays riches ont acheté la plupart des premiers vaccins. Le programme a dû se battre pour obtenir les doses limitées. Après avoir livré près de 2 milliards de doses, le programme COVAX a réduit son champ d'action pour servir les pays les plus pauvres. Cela en partie parce que 2 ans plus tard, il y a beaucoup de vaccins disponibles. Cependant, tout le monde ne les reçoit pas, selon Krishna Uddikumar, professeur de santé mondiale à l'université Duke.
Les inégalités sont vraiment flagrantes et continuent. En Afrique, seuls 25% de la population de l'ensemble du continent sont entièrement vaccinés, contre plus de 75% dans des endroits comme l'Amérique du Sud.
L'offre n'est plus le gros problème, c'est la demande qui l'est. Selon Janine Madden-Keller, spécialiste de la santé au Centre pour le développement global, les habitants des pays à faible revenu ne font pas la queue pour se faire vacciner contre le Covid.
Ce manque de demande est vraiment une tendance inquiétante que nous observons. Les raisons de cette faible demande, je dirais, sont assez complexes et à multiples facettes.
Les informations erronées sur les vaccins sont monnaie courante. La confiance dans les gouvernements qui fournissent ces vaccins est faible. Et beaucoup de personnes dans les pays à faible revenu ne voient pas le Covid comme une menace. De plus, les vaccins ont mis trop de temps à arriver.
Alors qu'il y avait une demande, elle n'a pas été satisfaite. Il est donc raisonnable de constater aujourd'hui une plus grande hésitation, car nous avons manqué le moment où tout le monde était prêt à accepter de se faire vacciner.
Ce retard s'explique en grande partie par le fait que la fabrication des vaccins est concentrée dans quelques pays, pour la plupart riches. Les nations les plus pauvres ont été laissées dans l'attente d'une aide financière, explique Jennifer Nuzzo, directrice du centre de pandémie de Brown University.
Je pense que nous devons trouver le moyen de produire ces vaccins de manière beaucoup plus répartie qu'auparavant, afin de ne pas dépendre uniquement des dons. Il est clair que les dons ne fonctionnent pas car face à une crise, les pays choisiront toujours de donner la priorité à leur propre population.
Des efforts sont en cours pour construire davantage de laboratoires pour faire des vaccins en Afrique. Mais leur construction n'est qu'un début. Comment les maintenir en activité à long terme est une autre question, dit Keller.
Qui va acheter ces vaccins? Ou encore, quels sont les vaccins qu'il est judicieux d'un point de vue économique, mais aussi sanitaire, de produire? D'où viendra l'argent pour les payer?
L'Union africaine est confrontée à ces questions alors qu'elle vise à fabriquer 60% de ses vaccins de routine sur le continent d'ici 2040. Le défi consiste à construire une industrie durable, capable de gérer à la fois les vaccins ordinaires et l'inévitable prochaine pandémie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici, aux États-Unis, la commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole a recommandé une poursuite criminelle contre l'ancien président Donald Trump. La Maison-Blanche tente d'éviter de donner l'impression qu'elle prend pour cible un adversaire potentiel du président Joe Biden en 2024. Reportage Patsy Widakuswara, le récit avec John Lindon.
We love Trump!
À deux semaines du deuxième anniversaire de l'assaut des partisans de Donald Trump sur le Capitole, un chapitre sans précédent de l'histoire des États-Unis s'ouvre. Sept législateurs républicains et deux démocrates ont recommandé des chefs d'accusation criminels contre l'ancien président Trump pour son rôle dans la tentative de faire annuler la victoire de Joe Biden aux élections de 2020. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous allons être très, très prudents pour ne pas du tout politiser ce processus. Cette administration et le département de la justice conduisent les enquêtes criminelles en toute indépendance, d'une manière libre de toutes sortes d'interférences politiques, de toute interférence.
Pour sa part, le ministre de la Justice, Merrick Garland, doit décider s'il doit agir sur la base des recommandations de la commission du 6 janvier. Peter Lodge dirige le projet d'éthique en communication politique de l'Université George Washington.
La meilleure chose que le président Biden puisse faire est ce qu'il fait, et qui est de dire, vous savez, la commission de la Chambre a un dossier persuasif. De mon point de vue, c'est très clair. Je partage leurs conclusions. Nous devons continuer à défendre et promouvoir la démocratie, et il revient au ministère de la Justice d'agir, et il faut lui laisser la voie libre.
Le ministre de la Justice est nommé par le président et confirmé par le Sénat. Diverses mesures ont renforcé l'indépendance de son département suite au scandale du Watergate. Dans cette affaire des années 70, le président Richard Nixon avait tenté d'utiliser son principal conseiller juridique pour des manœuvres politiques. La loi de 1978 sur l'éthique gouvernementale permet aussi à la justice d'enquêter sur des méfaits en toute indépendance vis-à-vis de la présidence. Merrick Garland l'a utilisée pour désigner l'enquêteur spécial Jack Smith et lui confier l'investigation concernant Donald Trump.
Une telle nomination souligne l'engagement du département en termes d'indépendance et d'imputabilité dans des affaires particulières et sensibles.
Pour l'ancien président, ce n'est qu'une chasse aux sorcières.
Au fil des ans, j'ai fourni des millions et des millions de pages de documents, de feuilles d'impôt et autres, et ils n'y ont rien découvert. Ce qui prouve que je suis l'une des personnes les plus honnêtes et les plus innocentes de tous les temps dans notre pays.
Aucun ancien président n'a été inculpé pour conduite criminelle et beaucoup d'Américains redoutent que cette affaire accentue davantage les divisions politiques. Toutefois, certains observateurs estiment que cela en vaut la peine. William Howell enseigne la politique américaine à l'Université de Chicago.
Il y a au moins la possibilité qu'une véritable indépendance du ministère de la Justice et d'une poursuite minutieuse contre l'ancien président qui, à bien des égards, foulait la loi aux pieds, ce qui aura pour effet de renforcer l'état de droit et de protéger notre démocratie. C'est le pari que fait le ministère de la Justice.
La commission du 6 janvier recommande que Donald Trump soit inculpé d'assistance ou d'aide à une insurrection, d'obstruction à une procédure officielle, de complot visant à frauder les États-Unis et de complot en vue de faire de fausses déclarations.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Lil Ben on the strike. I'm